Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Accès aux services sociaux de base au Mali, quel est l'apport de Scale Plus? C'est le sujet du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Joseph Sani, conseiller technique de FHI 360, Abdulwahab Diakité de l'association des consommateurs Ascoma au téléphone et Madame Togo Sitansissé, directrice adjointe de PEC Mali. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
L'accès aux services sociaux de base reste un des défis majeurs à relever au Mali. Face à cette situation, plusieurs initiatives sont proposées. Parmi elles, l'outil Scale Plus qui traite des questions de développement complexes. Alors, vous, Abdul Wahab Diakité, vous êtes de l'association des consommateurs, les bénéficiaires bien sûr des services sociaux de base. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation, votre constat par rapport à la situation aujourd'hui?
Bon, merci bien, Monsieur Touré. En fait, les services sociaux de base, nous, au niveau des consommateurs, nous attendons cela d'abord par l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau.
Oui.
Bon, et quand on essaie de voir, d'analyser la situation au Mali, l'accès aux services sociaux de base reste très faible. Certes, il y a des différentes politiques. Malheureusement, les politiques ne sont pas accompagnées par les moyens adéquats. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous essayons de voir au niveau national, les collectivités ne sont pas à la même enseigne. C'est ce que je pourrais dire d'abord.
D'accord. Face à cette situation, Joseph Sani, vous proposez l'outil Scale Plus. Pouvez-vous nous parler de cet outil?
Oui, en fait, je suis Joseph Sani. Donc, l'outil Scale, parce que comme vient de le dire l'invité, reconnaît déjà à la base que les problèmes de développement et même les problèmes comme d'accès aux services de base sont des problèmes complexes. C'est-à-dire qu'un seul secteur ne peut pas résoudre ces problèmes. Donc, il est important de mettre autour de la table, et pas seulement de la table, parce qu'il faut aller au-delà des idées, mettre sur le terrain des acteurs qui interviennent sur différents domaines. Donc, c'est un constat qui a été fait depuis des décennies déjà par FHI 360. C'est dans le cadre de ce constat, la reconnaissance que les problèmes de développement de manière générale, et surtout d'accès aux services de base qui améliorent les conditions de vie des populations, requiert aussi une approche systémique, c'est-à-dire une approche qui reconnaît la complexité, qui reconnaît la diversité des acteurs qui doivent travailler ensemble pour pouvoir apporter des solutions collaboratives pour résoudre ce problème. Donc l'outil Scale, qui est en fait un sigle anglais, qui veut dire « System-wide collaboration for agriculture, livelihood and environment ». Mais en fait, en mot en français, c'est une méthodologie d'engagement des parties prenantes des différents secteurs pour développer et planifier des actions communes pour atteindre un but commun. Donc, nous mettons ensemble des acteurs qui agissent sur différents angles d'une même problématique. Nous les mettons ensemble à travers une méthodologie bien déployée à partir de la définition du problème, la cartographie des parties prenantes et le développement des actions, d'un plan d'action collaboratif. Et ensuite, la mise en œuvre de ces activités. C'est ça, souvent, là où le bas blesse. Parce que souvent, nous organisons des colloques, nous discutons, mais nous prenons des résolutions. Et après, il n'y a plus un suivi. Et les populations sont laissées pour compte. Hein, nous créons des attentes et après, nous ne les suivons plus. Et je crois que là, ça crée des frustrations. Donc l'outil qui va un peu plus loin, une fois qu'on a développé des plans d'action collaboratifs, nous mettons en place ces actions-là. Et dans le cadre de la méthodologie, il y a un comité de pilotage. Et il y a aussi des financements qui suivent derrière. Donc nous finançons des petits projets. Et des acteurs qui participent dans la méthodologie s'engagent eux aussi à mettre la main dans la pâte pour pouvoir mettre en œuvre le plan d'action. Donc ça c'est met ensemble la réflexion, la planification et l'action. Parce qu'on a besoin d'action aujourd'hui. Des solutions, ça peut exister, mais on a besoin d'action.
D'accord. Madame Togo Sitan-Sissé, vous êtes directrice adjointe de PEC Mali. L'utilisation de Scale Plus au Mali, ça a commencé en 2016, c'est ça?
Oui, Scale Plus FHI360 a commencé à l'utiliser en 2016 dans un de ses programmes à Tombouctou, en collaboration avec AMSS, notamment le programme de participation au processus de paix. Et puis en 2017, on l'a utilisé aussi dans un autre programme de résilience. Et on se prépare en 2018 à l'utiliser dans le programme d'engagement civique, ce qui veut dire PEC.
Mais quel est son objectif selon vous?
Comme Sani vient de le dire, l'objectif de ce programme, c'est d'aborder des questions complexes avec une approche multi-acteurs qui permet à chacun d'apporter sa contribution afin de trouver une solution durable à ces problèmes d'accès aux services sociaux de base pour le cadre de programme d'engagement civique.
D'accord. Alors, Abdul Wahab Diakité, vous avez entendu une petite présentation de l'outil Scale Plus. Qu'en pensez-vous?
La liaison n'est pas très bonne. Donc, je n'ai pas bien compris.
Brièvement, Joseph Sani, est-ce que vous pouvez reprendre, juste présenter l'outil Scale Plus?
Oui, donc, c'est ce que je voulais dire, c'est comment mettre ensemble les acteurs multisectoriels, qui agissent de façon multisectorielle, comment les mettre ensemble pour qu'ils développent des plans d'action collaboratifs et qu'ils mettent en œuvre ces activités, ces actions-là, pour satisfaire les besoins des populations. La différence ici, et j'insiste beaucoup là-dessus, il ne s'agit pas de s'arrêter seulement aux bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, c'est nécessaire. Mais ce qui est essentiel, c'est mettre en œuvre ces résolutions pour satisfaire les besoins de la population. Et ça, c'est ce que l'outil Scale Plus apporte en plus.
D'accord. Vous avez compris, M. Diakité?
Oui, j'ai compris maintenant. C'est maintenant la raison maintenant.
Voilà. Oui, qu'en pensez-vous, vous, en tant que bénéficiaire?
Non, effectivement, comme il vient de le dire, c'est un problème complexe. Et également, effectivement, la révolution ne dépend pas des seules autorités. Il faut effectivement cette synergie entre les différents acteurs pour prendre en charge ces problèmes d'accès aux services sociaux de base. Ça, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et peut-être dans le débat, peut-être les méthodes, les approches peuvent différer, mais effectivement, sans cette synergie-là, il serait très difficile, en tout cas, d'accéder aux services sociaux de base.
D'accord. Au niveau de l'État, pensez-vous que, concernant les précédentes mesures prises, actions posées, les bénéficiaires, la population a été oubliée, elle n'a pas été consultée? Est-ce que c'est ce que vous pensez?
Non, en fait, il faut faire extrêmement attention. Parce que c'est ce que je disais depuis le départ, que les différentes collectivités ne sont pas à la même enseigne. Bon, et si nous parlons de cela, il faudra juste faire une petite analyse par rapport à la décentralisation qui a commencé dans les années 99. Maintenant, c'est en ce moment qu'effectivement, que les collectivités aussi bien que les populations ont eu un rôle majeur à jouer. L'État, effectivement, a pris des mesures, malheureusement, qui n'ont pas été appliquées à la lettre. Je voudrais parler du transfert de compétences qui devait être suivi par du transfert de compétences. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Donc, toutes les actions qui ont été menées par l'État n'ont pas abouti à des résultats escomptés. Aujourd'hui, force est de reconnaître que vraiment l'accès aux services sociaux de base, c'est un défi qui n'est pas encore, qui est loin d'être levé par les plus fortes autorités.
D'accord, Madame Sitan, revenons un peu en arrière. Quand on parle de services sociaux de base pour le citoyen lambda, est-ce que vous pouvez expliquer, c'est quoi les services sociaux de base?
Alors, les services sociaux de base, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Les plus connus, c'est l'accès à une éducation de qualité, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, tout en assurant la dignité des personnes qui utilisent ces services. Et puis, il y a l'accès à la santé. Donc ça, c'est ce qui est connu. Mais bon, il y en a aussi qui associent même l'accès à l'emploi, pour les couches vulnérables et pour la jeunesse. Donc, mais en gros, les services sociaux de base, quand on parle de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, on parle de l'éducation et on parle du secteur de la santé.
Et c'est l'accès à ces services qui est difficile au Mali.
C'est difficile. C'est difficile par endroit. Généralement, c'est difficile, mais par endroit, c'est crucial. L'accès est très crucial dans certains domaines. Je pense que M. Wahab, qui est le représentant des consommateurs, pourra dire beaucoup de choses là-dessus.
Alors, Joseph Sani, pensez-vous que l'outil pourra réellement changer quelque chose à cette difficulté?
Je pense que, comme l'a dit M. Wahab, c'est un problème complexe. Les gens ont de la volonté pour régler ces problèmes-là. Je pense que ça, il ne faut pas nier les efforts qui ont été faits. Et puis, un outil comme celui-là, qui est financé par un bailleur comme USAID, c'est juste une contribution supplémentaire. On ne peut pas tout centraliser autour d'un outil, comme on l'a dit. Maintenant, l'outil, l'avantage d'un outil pareil, d'une méthodologie pareille, c'est de donner un cadre d'action. N'est-ce pas? Une façon d'engager les gens, souvent. Parce que souvent, dans la conception des politiques publiques autour des services de base, souvent les oubliés sont parfois les utilisateurs. N'est-ce pas? Donc, quand on a un cadre d'analyse, ça permet de ne pas oublier les gens. Parfois, les gens sont oubliés, pas parce qu'on veut les oublier, hein, il faut être clair, il y a une bonne volonté d'impliquer tout le monde, mais comment le faire, les méthodologies, comment s'assurer qu'on peut suivre les performances, tout ça, c'est ce que les cadres, les méthodologies comme celle-là apportent. Mais ce n'est pas la solution. On ne va pas confondre le but avec le processus. Mais c'est un atout. C'est un atout lorsqu'on a une méthodologie claire qui a prouvé ses effets. Donc, on peut l'utiliser. Voilà. Mais ça ne remplace pas, évidemment, d'autres apports.
Justement, parlez-nous du processus. Comment ça fonctionne?
Donc, voilà. Donc, ça, c'est une bonne question. Ça nous permet un peu de rentrer dans comment ça fonctionne, le processus lui-même. Au départ, nous mettons en place ce qu'on appelle un comité de pilotage, qui, une fois qu'on a défini un peu l'axe d'intervention, dans ce cas, c'est accès aux services sociaux de base. Donc, nous allons mettre en place un comité de pilotage, constitué de certains individus qui représentent soit les acteurs qui agissent sur la problématique, ou qui peuvent influencer la problématique, ou qui subissent le problème. Donc, par exemple, M. Wahab sera une source sûre. Par exemple, c'est un exemple. Et une fois que le comité de pilotage est mis en place, nous travaillons avec ce comité-là pour essayer de mieux formuler la problématique. Parce qu'en fait, on peut avoir un thème, services sociaux de base, mais il faut encore le formuler, encore, cette thématique. Et la formulation est importante parce que nous approchons cette formulation de manière systémique, holistique, exhaustive. Pour que personne ne soit oublié, qu'on ne commette pas les erreurs du passé ou qu'il n'y ait pas de point mort. Vous voyez. Donc, nous essayons de ce que nous appelons la cartographie du problème. Une fois la cartographie du problème réalisée, avec les différentes parties prenantes, nous définissons donc les parties prenantes qui seront invitées à un colloque de planification d'action collaborative. N'est-ce pas? C'est ce que nous appelons « on intègre le système ». Donc, nous avons cartographié les problématiques, cartographié les parties prenantes. Donc, nous avons une idée du système autour de la thématique, les services sociaux de base, par exemple. Et une fois, dans le cadre d'un colloque ou d'un atelier de 3 jours, les participants vont donc discuter de la problématique, mais plus encore des solutions qu'elles pourront mettre en œuvre ensemble. Ensemble. Donc, c'est beaucoup plus... Nous insistons sur la collaboration parce que le problème est complexe. Il ne dépend pas d'un seul acteur. Donc, une fois les plans d'action développés, les parties, évidemment, avec les responsabilités, donc il y a un suivi des activités. Mais au-delà de la mécanique et de l'outil, ce qui est important, c'est la cohésion et la capacité de générer le capital social, de mobiliser le capital social pour résoudre un problème de société. Ça, c'est important de le dire. Donc, renforcer la collaboration, renforcer les normes de coopération dans la communauté pour pouvoir résoudre ce problème. Et aussi mutualiser les efforts. C'est ça l'avantage de l'outil. Comment on peut mutualiser les efforts pour résoudre ce problème? Donc, voilà un peu en gros comment tu procèdes.
Mais vous financez également des projets, comme Citan le disait.
Évidemment, au sorti d'un processus comme celui-là, lorsqu'il y a des plans d'action collaborative, chaque acteur s'engage de dire, OK, là j'ai mieux compris, voici ma petite contribution à la résolution de ce problème. Un projet comme le PEC peut-être peut avoir sa petite contribution compte tenu de ses zones de compétences et des moyens à sa disposition. On a vu dans certains cas, les fondations peuvent se lever et dire, voilà, voici ma contribution. Par exemple, la fondation Hirondelle ou n'importe quelle fondation, ou certains médias peuvent dire, on a détecté que ce problème est amplifié. Par exemple, l'hygiène et salubrité. On a détecté que ce problème est amplifié parce qu'il n'y a pas l'accès à l'information. Donc, nous, on se porte garant, peut-être de donner 30 secondes de notre programmation pour des messages de sensibilisation. D'autres acteurs peuvent s'engager de différents. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'un acteur va apporter, mais c'est cet engagement, cette mutualisation de la contribution. Parce qu'à l'arrivée, hein, franchement, quoi qu'on dise, le Mali nous appartient tous. Nos pays nous appartiennent tous, nos communautés nous appartiennent tous. Et il revient à chacun. Quel que soit son niveau, de dire, voici ma petite contribution pour résoudre un problème qui nous affecte tous.
D'accord. Scale Plus est intervenu à Tombouctou, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que Scale Plus a pu changer dans ses projets?
Nous avons travaillé en 2016, je pense, avec l'association malienne pour la survie au Sahel, AMSS. Donc c'était dans le cadre d'un partenariat avec cette organisation. Nous avons eu l'opportunité justement d'avoir de faire un pareil travail à Tombouctou. C'était dans la thématique, c'était la contribution des jeunes et des femmes au processus de paix. Donc, dans le cadre de cette activité, nous avons développé un plan d'action. Mais il y avait les problématiques et les actions collaboratives qu'il fallait prendre, aller au-delà d'un seul projet. Donc, maintenant, ce que l'association malienne pour la suivre au Sahel en train de faire, c'est de faire un plaidoyer pour trouver des ressources pour supporter certaines activités du plan d'action. D'autres activités ont été prises, mais il y a eu un suivi. Donc, je ne suis pas mieux placé en termes de renseignement pour dire ce qui a changé sur le terrain concrètement. C'est trop tôt. Quand on parle de... Il y a certaines problématiques dont les effets sont visibles peut-être 6 mois après l'activité, 4 mois, et on sait le problème... C'était un problème sur la contribution des jeunes et des femmes au processus de paix. On sait que le processus de paix, il est en cours, il a cette difficulté. Donc, c'est un peu difficile d'évaluer maintenant.
D'accord. À vous, Madame Citan. Aujourd'hui, le partenariat, quel est le rôle du programme d'engagement civique PEC dans ce processus, dans l'utilisation de cet outil?
Le rôle de PEC, c'est déjà de vulgariser cet outil, de former ses partenaires, de montrer aux partenaires, aux représentants de l'État, aux représentants d'autres ONG, aux bailleurs, l'utilité de cet outil-là. Mais aussi de l'utiliser pour changer, nous qui intervenons dans le domaine de la gouvernance liée à la gestion des services sociaux de base, comment un tel outil peut amener tous les partenaires à collaborer ensemble pour une meilleure gouvernance du secteur afin de garantir l'accès durable aux populations.
D'accord. Abdoulwahab Diakité, vous aujourd'hui, selon vous, pourquoi n'arrive-t-on pas à accéder aux services sociaux de base, surtout au niveau local?
Surtout au niveau local, bon, je le disais tantôt, de faire une différenciation entre les différentes collectivités. Parce que si nous prenons la première région, qui est une zone d'immigration par excellence, et ces collectivités sont en avance par rapport aux autres collectivités. Non pas dû au fait que l'État fait beaucoup d'efforts, mais surtout à l'apport des migrants. Ça, c'est un. Il y a un deuxième facteur qui est là-bas, ça, c'est une zone minière également. Les zones minières également sont un peu en avance par rapport aux autres collectivités. Mais si nous prenons également, d'une manière générale, le difficile accès également, c'est dû non seulement à la non-continuité des collectivités dans la pratique. Qu'est-ce que je veux dire? Chaque 5 ans, il y a des élections. Et chaque 5 ans, les conseils se renouvellent. Les secrétaires généraux qui devraient être les mémoires des collectivités, généralement sont laissés pour compte. Ça, c'est un. Deuxièmement, la mauvaise gouvernance de peu de ressources qui sont allouées aux collectivités. Donc, ce qui fait que régulièrement, l'accès aux services sociaux de base devient difficile. Également, comme disait l'autre intervenant, le fait que généralement, on écoute les bénéficiaires même dans l'élaboration des plans de développement. Donc, tous ces facteurs cumulés font que réellement, aujourd'hui, l'accès à ces l'accès aux services sociaux de base reste très faible, mais il faudra également faire un distinguo entre les différentes collectivités.
Vous avez parlé de la mauvaise gouvernance, mais est-ce qu'il n'y a pas également l'engagement des citoyens? Quand vous parlez, par exemple, d'orpaillage, c'est vrai que l'or, ça apporte de l'argent, mais les produits utilisés également dégradent l'environnement, ce qui peut polluer l'eau.
Oui. Moi, je vois bien. Mais force est de reconnaître également que ces sociétés minières font beaucoup d'efforts dans le cadre, en tout cas, de l'accès aux services sociaux de base. Mais en fait, s'il y a une dégradation de l'environnement, il faudra s'en tenir effectivement aux causes contractuelles. Donc, ce sont toutes les autorités qui sont en cause et non la société minière. Parce que c'est une convention qui est là. Le respect de la convention, celui qui compte, en tout cas qui veille au respect strict, ce sont les autorités. Donc, il faudra faire effectivement attention par rapport à ces problèmes-là. Nous sommes dans la zone minière. Nous savons ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi je parle de mauvaise gouvernance. Quand je parle de mauvaise gouvernance, ce sont des collectivités qui ont pratiquement 500 millions, voire 1 milliard de patentes. Donc, malheureusement, qui sont dans la plus grande partie, à plus de 80% qui sont utilisés uniquement dans le fonctionnement. Et donc, dans l'accès aux services sociaux de base. C'est pourquoi je parle de mauvaise gouvernance dans ces différentes collectivités-là. Ce que vous êtes en train de dire, je suis d'accord avec vous, mais il y a un responsable qui est là. Ça, c'est l'État qui signe les conventions avec la société minière. Donc, c'est aux autorités, effectivement, de, en tout cas, de veiller au respect strict des clauses contractuelles.
D'accord, M. Joseph. Est-ce que la responsabilité n'est pas partagée à ce niveau, pas au Mali seulement, généralement?
Ah oui, d'accord, merci, parce que je ne connais pas bien le Mali. Donc. Mais de manière générale, ce que nous essayons de promouvoir, c'est le sens de devoir partagé. Je pense que c'est important que ce soit même au niveau de la gouvernance, comme dans d'autres pays, ce que nous essayons de promouvoir, ce n'est pas une gouvernance où, à sens unique. Il y a une responsabilité citoyenne aussi. Souvent, on se rend compte qu'il y a une fracture dans le dialogue entre les citoyens et les autorités, n'est-ce pas, et d'autres acteurs. Imaginez-vous comme cette situation où, si on peut trouver un cadre ou faciliter un dialogue entre les entreprises, le gouvernement et les citoyens, pour qu'ils s'approprient non seulement le problème, mais des solutions aussi. Je pense que peut-être on peut faire un pas. Hein? Parce que parfois, les gens, en voulant résoudre un problème, parce que, vous voyez, très souvent, j'aime comparer les problèmes de la société comme... nous sommes comme des aveugles devant un éléphant. Chacun essaye de définir l'éléphant par rapport à ce qu'il voit. Et vraiment de bonne foi, parfois. Je donne à tout le monde la bonne foi. Et donc, l'autre voit, il touche la patte, il dit, mais ça, l'éléphant, c'est un tronc. Mais moi, je vous dis, l'éléphant, c'est un tronc. Il est convaincu que c'est un tronc. L'autre touche la queue de l'éléphant, il dit, mais l'éléphant, c'est une liane. Et nous sommes tous des aveugles devant des problèmes très complexes. Pour une fois, si nous pouvons mettre nos intelligences collectives, je ne suis pas naïf, il y a aussi des intérêts, évidemment, bien sûr. Mais si nous pouvons seulement, un instant, reconnaître que les problèmes que nous avons, par exemple, en réglant un problème de moustique, j'utilise des pesticides, mais si je ne travaille pas quelqu'un qui connaît l'environnement, pour me dire qu'en fait, oui, je comprends, tu as une bonne intention, tu veux vraiment chasser les moustiques et diminuer la malaria, mais le produit que tu utilises va créer d'autres problèmes. Vous voyez, si nous ne pouvons pas créer ces cadres-là, où les gens mettent leurs intelligences ensemble pour régler le problème, je pense que ce serait un peu plus compliqué. Donc peut-être le premier pas, c'est de créer ces cadres-là. Et c'est ce que nous essayons de faire. Quels sont les cadres où nous pouvons amener les gens à voir différentes perspectives pour que nous, en voulant faire du bien, que nous ne fassions pas du mal. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas le plus compliqué regrouper les gens, créer ce cadre, permettre aux gens de pouvoir parler, de s'exprimer librement.
C'est ça. C'est compliqué, mais c'est une question d'engagement. C'est une question de perspective. C'est une question de vision. Il y a des partenaires qui partagent la même vision que nous, qui sont très faciles, qui vont s'embarquer dans ce train avec nous depuis les premiers pas. Bon, il y a d'autres partenaires, comme vous le savez, c'est toujours à la traîne. Ils vont, la compréhension pas facile, mais tant qu'ils ne voient pas leur intérêt direct, ils ne vont pas s'engager. Mais nous, ce que nous essayons de privilégier ici, c'est l'intérêt global. Et amener les gens à travailler sur des questions dans lesquelles chacun a non seulement un intérêt, mais chacun peut envoyer, donner une contribution qui peut améliorer un problème commun, un problème qui affecte la communauté à part entière, y compris ces gens qui sont à la traîne.
D'accord. Alors, quelles sont les limites de cet outil Scale Plus?
Ah, c'est une très bonne question. Oui. En fait, je ne parlerai pas de limites en tant que telles. Évidemment, c'est basé sur une approche systémique, donc, qui peut avoir des limites sur le plan théorique. Mais sur le plan pratique, c'est souvent, comme tout processus qui encourage, promeut la communication, le suivi. Le suivi souvent demande les moyens et les évaluations de performance. Ça, souvent, ça a été à la traîne. Comment mesurer la performance? On a pu le faire dans certains projets dans d'autres pays, en Tunisie, où on avait les ressources pour financer beaucoup d'activités qui ont émergé du processus. On n'a pas les moyens dans tous les cas. Et aussi, comme l'a souligné ma collègue, il y a parfois les parties prenantes prennent des engagements qu'elles ne suivent pas. Donc, il y a souvent ces limites. Et puis, comme c'est volontaire, voyez-vous, c'est un engagement volontaire, il n'y a pas de moyen de pression pour que les gens respectent leur engagement. Donc, sur le plan pratique, hein. Bon, il peut y avoir des limites théoriques parce que c'est basé sur la théorie de la complexité, des systèmes, etc. On peut discuter dessus. Mais, sur le plan pratique de mon expérience, dans près d'une demi-douzaine de pays en Afrique, voilà où j'ai vu des limites dans le suivi des activités et les limites sur l'engagement des parties prenantes.
Surtout le suivi, quand on prend par exemple l'exemple toujours de l'environnement, le reboisement des arbres qui sont plantés mais qui ne sont pas suivis. Est-ce que ce n'est pas toujours le problème de suivi Mais ce suivi devrait être fait par qui selon vous?
Par les parties prenantes qui se sont engagées. Parce que souvent aussi le suivi, c'est aussi lié à ce que j'appelle à un déficit d'appropriation de la solution. Donc vous pouvez venir avec des solutions. Mais s'il n'y a pas eu suffisamment une appropriation, qu'elle soit locale ou nationale, il y a un problème de suivi souvent. Et puis, bon, suivi aussi, c'est un manque de moyens parce qu'on parle ici des biens publics. Hein. On sait une des caractéristiques des biens publics, c'est que même ceux qui n'ont pas contribué à leur production, ils ont accès. Donc, à un moment donné, il faut garantir quand même leur pérennisation. Bon, ça demande quand même des moyens financiers qui ne sont pas souvent à la portée des communautés. Comme l'expliquait M. Wahab, souvent les communautés n'ont pas souvent tous les moyens pour maintenir et suivre certains services, certaines solutions sans des apports extérieurs.
D'accord. Concernant toujours le suivi, M. Abdul Wahab Diakité, est-ce que ce n'est pas un des problèmes majeurs auxquels le Mali fait face aujourd'hui? Parce qu'on a vu dans des localités où il n'y avait pas de services sociaux de base, par exemple de cliniques, de CESCOM, où ces localités ont bénéficié de ces CESCOM, mais après le suivi est devenu un problème. Le fonctionnement de ces centres de santé sont devenus un problème.
Non, bah, en fait, on ne peut pas résoudre un problème et amener les solutions sans l'apport même des bénéficiaires. Malheureusement, on malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On vient avec des solutions. Et finalement, quand le projet s'en va, effectivement, bon, et ça prouve que les bénéficiaires même ne sont pas appropriés du projet. Et ils pensent que non, c'est la continuité du projet. Et finalement, il n'y a pas de suivi. Et le projet s'arrête. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'implication même, dès le départ, des acteurs qui bénéficiaient, fait toujours défaut au Mali. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas faire un suivi. Et même quand au niveau national, quand le problème majeur, comme vous l'avez dit, c'est toujours le suivi. Aujourd'hui, on prend une chose, on pose un acte, mais le suivi pose toujours problème. C'est pourquoi on m'a dit, tu sais que quand j'entends le collègue en train de parler, il sait qu'en fait, c'est tout le monde, ce n'est même pas les nouvelles idées. Ce sont les anciennes idées qui sont là et qu'on est maintenant essayé, en tout cas, de les faire revivre pour les mettre encore en application. Et l'application, maintenant, dépendra peut-être que des hommes qui seront là dans le cadre de l'application de ces outils. Sinon, en réalité, le Mali, on ne peut même pas parler du suivi.
Est-ce qu'une des solutions pourrait être le coaching
pour les bénéficiaires? Le problème, c'est quoi d'abord? Les bénéficiaires, d'abord, tant qu'on ne mettra pas les bénéficiaires au centre même, en tout cas de la recherche des solutions, c'est sûr que quand on va apporter des solutions sans l'implication effective des bénéficiaires, c'est sûr que ce sera toujours un échec. Quand vous l'avez entendu, c'est effectivement un bon outil, mais ça dépendra, la réussite de cet outil-là dépendra effectivement des hommes qui seront chargés de les mettre en œuvre dans les différentes collectivités. Moi, je ne peux pas venir aujourd'hui. Effectivement, il y a un problème d'accès à l'eau, il y a un problème de santé. Je viens, je fais un forage. Et sans faire appel aux citoyens, même s'il y a un petit matériel qui coûte 100 francs, si c'est en panne, personne ne sera là pour prendre en charge, pour faire le renouvellement. C'est ce qui pose problème. C'est surtout d'avoir l'accès, c'est-à-dire comment faire en sorte que les bénéficiaires soient effectivement impliqués dès le départ. C'est ça le problème réel. Mais quand on entend parler, effectivement, il vient au niveau d'une collectivité, on essaie de voir, d'impliquer tous les acteurs, effectivement, cet outil pourrait être une solution à l'accès aux services sociaux de base. Mais sans cela, c'est sûr que ce serait un échec.
Quelle est la place des bénéficiaires, des citoyens, dans la mise en œuvre de cet outil Scale Plus?
En fait, je soutiens à 100% ce que vient de dire M. Wahab. L'une des forces de cet outil, justement, de cette méthodologie, c'est que toutes les voix sont représentées, même souvent les voix qui ne sont pas représentées, dont souvent les marginalisées. Donc, on ne voudrait pas un outil élitiste. Les bénéficiaires, qui pour nous sont des acteurs actifs, pas passifs, parce que les bénéficiaires sont impliqués au niveau même de la formulation du problème. C'est ça qui est important. Parfois, on dit qu'il faut les impliquer, et je suis d'accord au niveau de la formulation de la solution, mais la solution, elle vient parce qu'on a créé, on a formulé un problème. Si le problème est formulé d'une certaine manière, cela affecte aussi comment les solutions seront développées et mises en place. Donc, la clé, c'est de dire comment est-ce que vous formulez le problème. Ça veut dire reconnaître l'expérience quotidienne des bénéficiaires par rapport à une problématique. Ça peut être un problème, ok, on a vu d'accès à l'eau potable, mais à côté de cet accès, la manière dont le bénéficiaire explique son expérience par rapport à ce problème, peut-être que le problème est ailleurs, peut-être que le problème de l'accès à l'eau potable n'est que symptomatique d'un problème structurel et systémique qu'il faut adresser. Donc c'est pourquoi le bénéficiaire, les populations sont centrales, d'abord dans la formulation du problème, ce que nous appelons la cartographie du problème. Dans la cartographie des parties prenantes, les bénéficiaires sont au cœur et aussi dans la formulation des solutions et leur mise en œuvre. Parce que c'est seulement de cette façon-là que vous pouvez assurer l'appropriation. Bien évidemment, l'appropriation ne garantit pas souvent le suivi ou la pérennisation du projet. Parce qu'il y a des projets qui coûtent excessivement cher, même leur maintenance, soyons honnêtes. Par contre, lorsque les bénéficiaires sont impliqués dans la formulation de la solution, on commence à identifier dès le départ les parties de la solution qui peuvent être pérennes ou bien suivies par les populations. Ça, c'est important. Les populations pourront ne pas suivre tout le système de forage. Mais peut-être, le forage, parfois, il tombe parce qu'il est mal entretenu. Et peut-être qu'il faut juste, au moins les populations peuvent dire, nous pouvons apporter cette main-d'œuvre-là pour entretenir le puits, etc. Voici notre contribution. Vous voyez? Mais si elles ne font pas partie de cette définition de problème, définition de solution, il est très difficile de voir dans la solution qu'est-ce que les populations peuvent faire, qu'est-ce que l'État peut faire, qu'est-ce que les bailleurs de fonds peuvent faire. Donc, dans la méthodologie, les citoyens sont au centre.
Ouais. Est-ce que le coaching est intégré dans cet outil?
Maintenant, bon, si vous pouvez me dire ce que vous mettez derrière le mot coaching, ça m'aidera.
Puisque les bénéficiaires, vous l'avez dit, ne savent pas comment utiliser des fois ces matériels. Si on ne les apprend pas à utiliser ces matériels, à les maintenir, comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Est-ce que vous les formez?
Ah oui, bien sûr. À FHI, je pense, je vais laisser ma collègue le dire très bien. Mm-hmm. Parce que je crois qu'au cœur même du projet PEC, il y a tout un volet de renforcement des capacités, de développement des compétences. Je pense que ma collègue peut...
Allez-y.
Voilà, pour rebondir un peu sur cette question de suivi, si je prends l'exemple des forages, vous avez toujours un dispositif de suivi des forages qui s'appelle comité de gestion des points d'eau. La fonctionnalité reste un problème. Parfois, au début, les gens qui mettent en place ces forages mettent aussi ce dispositif de comité de gestion du point d'eau, qui sont formés à la base. Mais après, la coordination et le leadership pour gérer ça et continuer à suivre ces perspectives-là ou ces outils ou ces édifices-là dans les communautés peut poser problème. Donc, c'est l'un des objectifs de PEC, effectivement, c'est de former des comités, des OCB, ce qu'on appelle les organisations communautaires de base, à la gouvernance, les former à la redevabilité, les former sur le plaidoyer et les former aussi sur le leadership, sur comment se gérer, mais aussi les former sur la cohésion sociale et la gestion, la sensibilité au conflit. Parce que toute personne qui parle de gestion des ressources liées à l'eau, les ressources de l'éducation, à un certain moment donné, ça génère des conflits de leadership, ça génère des petits conflits. Donc, nous avons cette approche d'intégrer, de les former sur ces différents thèmes, afin d'assurer une continuité quand même, afin de leur donner cette possibilité d'assurer leur rôle, ce rôle de suivi, ce rôle de veille sur ces points d'eau, dans le domaine de l'éducation aussi. Donc, l'un des objectifs du programme d'engagement civique, c'est la formation des organisations communautaires de base à travers les organisations de la société civile qui sont nos partenaires contractuels.
Et notre objectif est également de communiquer là-dessus, de faire connaître cet outil. Comment allez-vous procéder?
Eh bien, nous allons utiliser, vous étant l'un de nos partenaires, nous avons une grande composante de communication sur Scale Plus à travers Studio Tamani dans le cadre de notre partenariat. Et vous allez être, aujourd'hui on était dans un atelier, vous étiez représenté, donc vous allez être au cœur de la mise en œuvre de ce processus-là pour nous permettre aussi de faire connaître l'outil, pour nous permettre de démontrer l'utilité de l'outil et aussi pour nous permettre d'avoir l'engagement des partenaires, mais aussi permettre, amener les partenaires à respecter leur engagement à travers les communications qui se passeront autour de cet outil-là. Et nous comptons utiliser Studio Tamani pour le faire.
D'accord. Abdul Wahab Diakité, avez-vous une idée d'autres outils qui pourraient être utilisés par le PEC et le PEC pour pouvoir parvenir à sensibiliser, faire comprendre cet outil à la population?
Bon, en fait, ça ne fait pas ignorer les outils traditionnels. Parce que, en fait, vous savez, les médias, les communications modernes ne suffisent pas, Il faut également s'appuyer sur les communicateurs traditionnels, également pour pouvoir atteindre les groupes cibles. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle à la radio, okay, il y a la radio de proximité, mais il faudra forcément les traduire dans nos langues nationales pour pouvoir mieux se faire comprendre. Et c'est sûr qu'en faisant tout cela, c'est sûr qu'ils pourraient bien communiquer et l'objectif serait, les cibles seraient atteintes. Voilà.
Que pensez-vous de cette proposition?
Je pense que c'est très bienvenu. Je pense qu'il est important, comme on l'a dit, les bénéficiaires, les populations sont au cœur de l'action du PEC. Les citoyens, c'est un projet d'engagement civique. Et donc, tous les canaux, surtout les canaux crédibles, n'est-ce pas, sont importants. Et comme il a dit, M. Awa, il est important aussi de reconnaître qu'il y a un patrimoine traditionnel. Il y a un réseau traditionnel, il faut le valoriser. Nous avons un capital culturel ici au Mali de communicateurs et de communication. Nous avons des pratiques de communication au Mali et qu'il faut capitaliser sur ça. Parce que justement, il faut être proche du bénéficiaire de la population et d'utiliser les outils qu'il utilise, qu'il connaît. Et je crois que l'un des avantages de Radio Tamani, c'est que vous êtes proche des populations, par exemple. Mais il faut trouver d'autres canaux, comme l'a dit M. Wahab. Je pense que c'est une très bonne suggestion.
D'accord. M. Wahab, vous venez de découvrir, si je ne me trompe pas, l'outil Scale Plus. Quelle est votre première impression aujourd'hui?
Bon, en fait, ma première impression, étant planificateur de formation, donc, en tout cas, ça me fait revivre encore mes 20 ans d'avant, quoi, quand j'étais encore étudiant. Mais malheureusement, mon scepticisme se situe par rapport aux hommes qui seront chargés de mettre cet outil-là. C'est sûr que c'est un outil, normalement, s'il est mis en œuvre, c'est sûr que les outils seraient atteints. Mais mon problème, ça, c'est par rapport aux hommes qui seront chargés de le mettre en œuvre. Parce qu'en fait, pour Mali, comme madame et madame le disaient tout de suite là, tout le problème du Mali, c'est quoi? Et ceux qui seront chargés, il faudra qu'ils sachent qu'effectivement, c'est l'intérêt des communautés qui sont d'abord prioritaires et non leur propre intérêt. C'est surtout cela. Parce qu'on ne parvient pas à faire ce distinguo-là. Tant qu'on ne se situe pas dans un outil, on pense que l'outil n'est pas bon. Alors que généralement, celui qui élabore l'outil, lui-même, il ne fait pas partie. C'est pour les générations futures. Donc, c'est dans ces seules conditions, effectivement, que cet outil-là, ceux qui seront chargés de les mettre en œuvre, sachent qu'effectivement, ils sont là pour prendre en charge les intérêts communautaires et non leurs propres intérêts. C'est à ce seul prix, effectivement, que je suis vraiment d'accord. Et surtout que le collègue qui entend le parler de l'outil, il est beaucoup bien. Et si son approche est mise en œuvre par ces acteurs-là, c'est sûr que les communautés pourraient s'approprier de ce outil et qui pourrait être effectivement un début de solution au problème d'accès aux services sociaux de base dans les différentes collectivités.
Il a beaucoup insisté sur la responsabilité des personnes qui vont mettre en œuvre cet outil. Est-ce que vous pouvez le rassurer?
Bien sûr. Les personnes qui vont mettre en œuvre cet outil sont des Maliens qui ont le souci de l'amélioration des services sociaux de base parce qu'ils sont affectés eux-mêmes. Donc, je peux rassurer M. Wahab que nous tiendrons en compte l'intégration et l'inclusion de la population à travers les différentes étapes de la mise en œuvre de cet outil-là. Et quand je parle d'inclusion, je pense aussi aux personnes vulnérables et aux personnes vivant avec handicap.
Quelque chose à ajouter à cela?
Non, elle a tout dit. Je pense que nous faisons confiance à l'équipe qui est sur le terrain. Jusqu'aujourd'hui, elle a tout fait pour démontrer qu'elle est capable, et surtout au niveau des populations. Comme vous savez, le projet est en train d'être mis en œuvre et le feedback que nous avons des populations est bon. Vous couvrez les activités du projet ici à la radio. C'est un projet d'engagement civique et donc qui fait aussi la promotion de la redevabilité citoyenne. Et donc voilà, nous donnons aussi aux populations, nous travaillons avec elles pour créer des cadres de redevabilité.
Et votre attente, c'est?
Notre attente, c'est que des populations s'approprient de ces problématiques aussi et contribuent aussi à se sentir responsables des solutions qui seront mises en place et s'en approprient. Et on espère que comme ça, nous allons apporter une petite contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations du Mali.
Merci à tous d'avoir écouté ce débat. C'est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique avec un financement de l'USAID. À la mise en onde de Gagné Kanté, régie vidéo assurée par Peting Diarra, je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chen Neberi, Haloud Mouli. Chen Neberi, c'est